gagnant sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+. Il est 1h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 16 juin, 111 millions d'euros de fraude détectés dans l'Hérault en 2024. Les chiffres ont été révélés mercredi dernier lors d'un point presse de Laurent Guillon, directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Sur l'ensemble des fraudes, 65 millions d'euros ont été encaissés. Ces résultats ont été obtenus grâce à plus de 25 000 contrôles réalisés dans l'année par les services fiscaux. Dans ce travail de recherche, l'intelligence artificielle a également été employée, utilisée avec des données administratives. Elle a permis de réaliser 50% des contrôles. Depuis le 5 juin, une collecte solidaire a été lancée à Montpellier. Les habitants sont invités à déposer leurs anciens téléphones, même cassés ou abîmés, dans un des 14 points de collecte. Une campagne lancée par Écosystème et qui se terminera le 18 juillet. Pour cette 6e édition, l'objectif est de collecter au moins 20 000 téléphones. En cas de réussite, la barre des 150 000 smartphones récupérés depuis 2020 et la première édition serait donc atteinte. Vos téléphones peuvent notamment être déposés à la piscine olympique d'Antigone, à l'espace Gisèle Halimi, ou encore à la Maison pour tous Frédéric Chopin. Le journal L'Équipe a dévoilé son classement des stades de rugby et de football. Après une saison difficile dans les deux disciplines, c'est encore la douche froide pour Montpellier, avec la Mosson classée dernière de Ligue 1 et le GGL Stadium qui se place 13e sur 14 en top 14. Pour Perpignan, c'est tout l'inverse. Malgré son avant-dernière place au classement, l'USAP voit son stade classé 4e pour le top 14. Ce classement prend en compte 9 critères, parmi eux l'ambiance, la propreté, l'histoire du stade, le confort, mais aussi les prix ou encore l'accessibilité. Chaque critère est noté sur 10 pour établir le classement final. Un nouveau record de pêche établi par les frères Toc, bien connus des réseaux sociaux, et leur ami Théo. Jeudi dernier, près d'Albi, dans le Tarn, les trois pêcheurs ont attrapé un silure de 2,75 m, battant ainsi le record de France pour 1 cm. Après plus de 10 minutes de lutte, les trois amis ont donc pu laisser place à leur émotion. C'est un poisson de plus de 100 kg, âgé de plus de 25 ans, ont révélé les frères Toc à nos confrères de France 3 Occitanie. Une pêche qui aura ravi les 250 000 abonnés de Laurent et Mathieu, alias les frères Toc. C'est la fin de ce Flash Info. À bientôt sur Radio Aviva.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, c'est une belle soirée qui vous attend dans l'Hérault. On note 23 degrés à Saint-Mathieu-de-Tréviers et 25 à Lunel. On attend un pic de chaleur de 21 degrés durant la nuit à Montpellier. Demain mardi, le soleil brillera autant qu'aujourd'hui. Il fera 27 degrés le matin à Montagnac et 33 pour l'après-midi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Radio Aviva.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-échange.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Libre-échange en partenariat avec le Midi Libre. On a un invité qui m'est cher, Christian Assaf, bonjour.
Bonjour, Perla.
Bienvenue sur notre antenne et sur l'antenne de sur les réseaux de Midi Libre. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu, hein, c'est un petit reproche, hein, mais vous êtes occupé. Donc vous êtes né à Nîmes, vous avez fait une carrière dans l'administration publique territoriale, et puis vous êtes entré en politique avec le grand Georges Fraîche en 95.
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'abord d'avoir Georges Fraîche comme enseignant.
Oui.
Parce que j'étais un étudiant à la faculté de sciences économiques à Montpellier et il enseignait l'histoire des faits économiques. Et moi, j'étais un étudiant moyen bon, on va dire ça comme ça. Et par ailleurs, j'étais représentant des étudiants de sciences éco.
Donc il avec un repéré. Dialogue.
Il m'avait repéré. Et à l'issue de mes études, à l'issue de ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, il est venu voir en me disant qu'il cherchait quelqu'un dans son cabinet et qu'il aimerait que je le rejoigne. Alors c'est assez étonnant, je vais vous dire.
C'est quand même entré par la grande porte directement. C'est incroyable.
Ah oui, parce que.
Mais ça, c'était Georges Fraîche. Hein.
Il savait comme ça s'entourer d'ailleurs de collaborateurs qui lui sont restés. Si je pense à Claude Cougnien, quoi, François Delacroix, qui sont restés
des
assez
années,
connus,
des
à
années.
Ses côtés, 30 ans, ouais, 40 ans, peut-être, donc il arrivait à, comme ça, à repérer et à s'entourer, ça fait partie de son talent, ça c'est vrai, il en avait beaucoup d'autres, et je me souviens d'ailleurs de cette anecdote où je lui avais dit, il va falloir convaincre mon père, parce que j'avais un papa médecin, qui lui souhaitait que j'aille plus loin dans les études, et Georges Fraisse, je lui avais dit, moi je suis enseignant, il va venir travailler avec moi, mais vous inquiétez pas, je ne le lâcherai pas, ce qui m'a obligé d'ailleurs
après, DEA de Sciences Po.
DEA de Sciences Po et à passer le concours de la fonction publique territoriale. Et donc, il avait respecté son engagement auprès de mon papa et c'était fort. Ouais.
Alors, vous travaillez avec Georges Fraisse jusqu'en 2007, ensuite avec Hélène Mandrou et dans son cabinet également. Et puis ensuite, vous êtes à partir de 2015, depuis 2015, conseiller régional, président du groupe majoritaire socialiste citoyen d'Occitanie et président de la REC. Nous verrons tout à l'heure pour nos auditrices, nos auditeurs, ce que c'est et quel est votre rôle dans ce domaine-là. Au niveau de la métropole, vous êtes vice-président de la métropole, délégué au sport.
C'est ça, vice-président chargé des sports. On a eu une année 2024 très chargée, d'ailleurs.
N'est-ce pas, hein? Ça a été une année riche, vous allez nous en parler. Et puis, conseiller municipal, bien entendu. Alors, avec ce parcours, avec justement différents élus, avec des personnalités différentes, avec des contextes surtout socio-économiques qui ont beaucoup évolué, quelles sont les valeurs clés pour vous en politique, Christian Assaf?
J'ajouterais à ce parcours déjà imposant, hein,
que vous décrivez de moi, mais,
que j'ai été élu député en 2012 jusqu'en 2017. Et peut-être que je le signale parce que c'est la force de mon engagement, si vous voulez.
La 8e circonscription.
C'est ça, c'était la 8e circonscription de l'Hérault. Mais aux côtés de Georges Fraisse comme d'Hélène Mandrou, j'ai pu évidemment d'abord m'aguerrir à ce qu'était la fonction publique, c'est vrai. Mais en termes de valeurs, Georges Fraisse avait cette phrase, il détestait ceux qui sont faibles avec les forts et forts avec les faibles.
Ouais.
Et il y avait ce côté un peu justicier, en tout cas, qui avait été inculqué. D'ailleurs, que j'ai encore développé avec Hélène Mandrou, notamment, je me rappelle de son appel au mariage pour tous, qui était un engagement fort de sa part, mais également de tous les combats que nous avons menés vraiment aux côtés de Georges Fraisse, qui m'ont donné pas l'âme d'un chevalier blanc, mais l'idée quand même que l'action publique, elle devait aider à, et d'abord à faire en sorte que, évidemment, l'activité prospère et qu'on avance, mais sans oublier, sans mettre de côté les plus fragiles, pour leur permettre, pour les embarquer avec nous, ne laisser personne au bord du chemin. Et je dois dire que j'ai eu
à l'Assemblée, c'est le lieu.
C'est le lieu rêvé pour ça.
C'est le lieu rêvé.
C'était le lieu rêvé pour ça.
C'est le lieu rêvé.
C'était un mandat, vous le savez, compliqué 2012-2017.
Ouais.
Moi, on va dire, je suis rentré tout de suite dans le grand bain, puisque les deux premières missions ou commissions dans lesquelles je suis rentré, il y a eu d'abord la mission d'enquête contre Jérôme Cahuzac.
Ouais.
Et donc, là aussi, il y avait des injustices à réparer.
Ouais. Ouais.
Et puis, la mission d'information dans laquelle je participais contre le djihadisme. Car déjà, dès 2012, hein, je rappelle qu'il y avait eu l'affaire Mera, l'affaire de la synagogue et de l'école
on a quand même, ça a été une période
vraiment
où on a compris qu'on avait un basculement.
C'est ça. Oui, il a fallu qu'on le comprenne vite, parce que je crois qu'on n'était pas complètement armés, ni juridiquement, ni dans les esprits. On se souvient on avait les plans Vigipirate, mais c'était un autre monde. Et il nous a fallu nous adapter. Il a fallu adapter notre dispositif législatif, mais aussi inculquer une certaine façon de fonctionner. Ici, par là, vous le savez mieux que personne. Ça nous a obligés à changer nos comportements et nos modes de vie.
Complètement. Oui.
Et je pense que ce passage de 2012 à 2017, puisque certes, je suis rentré en 2012 avec ces commissions-là, mais après, il y a eu les attentats, Charlie Hebdo, Épicerie Cachère, puis le Bataclan, les terrasses
bien
des cafés, le Stade de France. Le mandat a été...
Ça a été très lourd.
Mais d'une certaine façon, ça donne un sens à mon engagement politique.
Oui, exactement. Là, vous avez été au cœur du réacteur pour protéger, pour mettre en place la législation qui puisse réguler au niveau justice, pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre l'intégrisme, pour toutes ces questions-là qui se sont fait jour à ce moment-là. Et c'est important de dire que on est dans un pays de droit, c'est-à-dire que on part à l'Assemblée, on n'est pas en train de faire. C'est important de rappeler ça.
Ah oui, enfin, alors là, pour le coup, mon expérience, notamment à côté de Georges Frêche, qui lui-même avait été député, m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que je n'ai jamais été impressionné par les ordres de la République.
Voilà.
Très jeune, déjà, travaillant pour le grand Georges Frêche, je savais ce que c'était que le pouvoir, les attributs du pouvoir.
Bien sûr.
Donc, quand je me suis senti assez opérationnel quand je suis arrivé à l'Assemblée, je savais pourquoi j'étais là. Après, est-on vraiment préparé à l'horreur? Très honnêtement, il y a un état de sidération. Comment imaginer, même encore dans ce pays, que pour des raisons religieuses, et pourquoi ne pas le nommer, lorsqu'on est juif, on peut mourir parce qu'on est juif.
C'est impossible à intégrer.
Maintenant, il faut vivre avec, il faut le combattre, il faut s'adapter à ça. Mais donc il y a eu un état de sidération, mais assez rapidement quand même. Et voilà, nous n'avions pas de place pour les états d'âme, et donc nous nous sommes mis au travail. Et je dois dire qu'aux côtés de, notamment de Bernard Cazeneuve, mais aussi de Manuel Valls, beaucoup, et de François Hollande évidemment, beaucoup a été fait pour adapter notre appareil législatif répressif, notre protection contre
Absolument.
Le terrorisme.
Donc, pour les gens qui, justement, très souvent, les gens disent pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça. On est dans une dynamique de pays de démocratie avec un temps pour les décisions, un temps pour mettre en place, un temps pour tester. Donc, c'est important. Christian Assaf, avec cette belle expérience que vous avez eue au niveau à la fois local et puis national, quelle est la valeur cardinale que doit porter sur lui, et comme ça, un homme politique ou une femme politique?
La différence qu'il y a, j'allais dire, entre un élu et un citoyen, c'est peut-être la responsabilité. C'est-à-dire que l'élu, il doit agir en responsabilité. Autrement dit...
Il voit plus loin?
Quand fait divers, quelque chose qui vient heurter nos sensibilités se produit, l'élu doit arriver à dépasser l'émotion, la colère, l'esprit de vengeance, pour avoir une action, en effet, qui permette de voir plus loin, de s'inscrire...
Et rationnellement,
efficacement.
Exact.
C'est-à-dire, en gros...
Et dans le respect des lois.
Dans le
en
respect.
Plus.
Et des valeurs démocratiques.
Des valeurs, voilà.
Donc, l'esprit de responsabilité, c'est d'ailleurs le reproche majeur que je fais à une grande partie de la classe politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sur les deux côtés des extrêmes, qu'elles soient à l'extrême gauche.
Les deux extrêmes sont
irresponsables. C'est-à-dire,
ils créent un clivage social.
Pour moi, vous savez, quand j'entends certains députés aujourd'hui, qu'ils soient la France Insoumise ou le Rassemblement National, ils me font penser à des animateurs télé, à des commentateurs. Mais ils ne sont pas ça. Normalement, lorsqu'on est un élu de la République, on doit on ne fait pas du show. On n'est pas là pour invectiver, monter les uns contre les autres. On est là pour essayer de trouver des solutions. Nous n'avons pas tous les mêmes clés, c'est la démocratie, et c'est le peuple qui doit choisir, bien sûr. Mais par contre, un certain sens des responsabilités, de la mesure...
Des conséquences des paroles,
voilà. Évidemment. Je veux dire, les paroles que produisent des élus aujourd'hui ont des conséquences sur les gens de la société, mais aussi sur les plus fragiles. Donc, une parole déplacée, un appel à la vengeance, un appel au crime, peut se traduire par un acte.
Ça passe à l'acte. On se laisse passer à l'acte. Et donc, quand on dit que l'antisémitisme est résiduel, quand il y a plus de 1500 actes antisémites par an, depuis 2 ans, c'est irresponsable. C'est irresponsable.
Ce chiffre est
très effrayant.
Effrayant. Aujourd'hui, nous venons de célébrer... le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Le devoir de mémoire, c'est pas simplement cette journée-là sans souvenir, c'est refuser systématiquement, au nom de je ne sais quoi, que parce qu'on est juif dans ce pays, sous prétexte qu'il y ait des événements en Israël, eh bien, fleurissent les insultes, les croix nazies, les actes, jusqu'au meurtre.
Bien sûr.
Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me révolte et qui doit guider notre action politique.
Christian Assaf est fait nouveau. Dès le collège, dès le primaire, les enfants disent des propos antisémites. C'est incroyable. On a eu un cas à 7, un gamin en 6e, qui est allé voir un autre en disant « Heil Hitler, les Juifs n'ont rien à voir à faire en France ».
Oui.
Et donc, c'est un effet de répétition où les politiques ont donné un feu vert à ça.
Bien sûr, si pour gagner quelques voix ici dans les quartiers, là-bas, je ne sais où, eh bien, on s'amuse à entretenir cette idée des boucs émissaires.
C'est ça, exactement.
Mais après, c'est hors de contrôle. C'est hors de contrôle.
Voilà. Alors, vous présidez la REC, c'est extrêmement important, dans une région Occitanie où Carole Delga est extrêmement impliquée, toute son équipe, justement, sur ces questions d'environnement et de planète. Alors, dites-nous un peu quel est le rôle de la REC.
L'Agence régionale de l'énergie et du climat est, comme vous l'avez très bien dit, est le bras armé de la région Occitanie pour répondre à l'objectif que Carole Delga a fixé, c'est-à-dire faire de la région Occitanie la première région à énergie positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de réduire de 50% d'ici à 2040, de 50% nos gaz à effet de serre.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme.
C'est un très très gros défi.
Et une fois qu'on donne ce défi, elle s'est dit, ça c'est très bien, la région, elle donne le cap, elle met en place des dispositifs, elle donne des subventions, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que lorsque l'on dit ça à nos concitoyens, lorsque l'on dit ça à nos chefs d'entreprise, lorsque l'on dit ça à nos collectivités, elles peuvent se retrouver un peu démunies en se disant bon très bien c'est un objectif mais ça m'angoisse, comment je vais faire parce que moi j'ai pas les sous pour rénover oui. Que ça soit d'ailleurs une collectivité, une entreprise ou un individu, oui. Il peut se retrouver démuni et donc angoissé face à ce challenge. Eh bien l'Agence régionale de l'énergie et du climat, elle a pour ambition, pour but d'être une boîte à outils, un ensemble de solutions pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités.
Donc, c'est une approche concrète.
C'est une approche
concrète. C'est-à-dire, on fédère et on voit comment on aide à mettre en place.
Nous, et je veux saluer ici l'ensemble des salariés de la REC, eh bien, on va aux côtés, que ce soit à travers le dispositif Rénov' Occitanie, des propriétaires, on va devant les chefs d'entreprise ou devant les maires des petites communes et on leur dit, voilà, on fait un diagnostic sur l'appartement, le bâtiment public, ou l'entreprise, l'état des lieux, on fait des propositions de solutions. Si l'entreprise ou le particulier ou la collectivité nous fait confiance, et il a toutes les raisons de le faire parce que on sait que dans ce milieu-là, on sait qu'il y a un peu à boire et à manger. Mais nous sommes un tiers de confiance parce que nous sommes détenus majoritairement par la région, donc nous ne sommes pas là pour arnaquer les petites gens, on va dire ça comme ça. Eh bien, nous proposons des solutions. Nous proposons des financements, nous proposons même de faire l'avance en captant les subventions des collectivités et en se remboursant sur tout ou partie des économies qui sont réalisées.
Qui sont faites au fur et à mesure, c'est intelligent parce que ça permet de franchir le pas.
Complètement.
Alors, quels gros projets sont présents là ?
Pour les particuliers, par exemple, c'est aujourd'hui la rénovation énergétique des copropriétés. Il y en a un certain nombre.
Les passoires énergétiques.
Les passoires énergétiques. D'abord parce que c'est une façon de rendre tangible et concret ce que l'on peut faire en termes environnemental, mais aussi en termes de pouvoir d'achat, parce que très rapidement, nos concitoyens...
Ils font des économies.
Économies d'énergie, et en plus, c'est bon pour la planète. Donc là, il y a un plan de plusieurs centaines de copropriétés qui sont aidées par la REC. Côté entreprise, c'est un peu la même chose. On a des dispositifs qui permettent aujourd'hui à nos entreprises... Je peux ici citer autour de Montpellier une entreprise oléicole qui fait de l'huile d'olive et qui nous a dit mais comment puis-je faire pour réduire mes consommations énergétiques? Eh bien on est venu avec des solutions, avec un prêt bancaire. On a fait l'avance parce que l'entreprise elle-même avait pas les
la trésorerie. Oui,
disons qu'elle considérait que son argent devait plutôt aller sa trésorerie devait plutôt aller sur les investissements. Et nous, eh bien, on a fait l'avance. Et sur les économies d'énergie, on se fait rembourser cette avance-là parce que il faut que cet argent puisse revenir pour à nouveau aider d'autres entreprises. Okay. Pour les collectivités, pareil. Donc, si vous voulez, c'est vraiment en ce qui concerne les économies d'énergie. Mais vous le savez, nous travaillons aussi sur l'hydrogène, les éoliennes en mer, évidemment, et sur le photovoltaïque. Donc, là encore. Un souci à la fois de trouver les bons outils techniques, les bons outils financiers, mais aussi de favoriser le passage à l'acte. Parce que faut arrêter maintenant de
faire de la pédagogie pour que les gens arrivent à passer à l'acte
et s'engager. Leur permettre de le faire, c'est-à-dire que des fois il y a des dispositifs qui sont pas coûteux mais qui sont méconnus, et bien c'est notre rôle à nous de le faire savoir, de le faire connaître.
Ça veut dire que les particuliers ou les entreprises peuvent s'adresser directement à la REC?
Directement à la REC et même les maires, hein, je sais qu'il y en a quelques-uns.
Mais ça, ils le savent en général.
Mais pas tous. Vous savez, les maires des petites communes, 1000 habitants, 500 habitants, 600 habitants, ils se disent non mais moi j'ai pas le budget pour rénover mon gymnase ou pour rénover ma mairie ou pour mettre des panneaux photovoltaïques. Eh bien, il faut qu'ils sachent que pour les citoyens, pour les anciens d'entreprise, comme pour les chefs de collectivité, quelle que soit la taille, il y a toujours un dispositif auprès de la REC. Il faut contacter la REC, site internet, et puis ne pas hésiter à contacter, franchir notre porte, des solutions rapides, faciles, peu coûteuses.
Donc c'est extrêmement important. D'où vient le financement de la REC?
D'abord, il y a la mise de fonds,
la mise de départ,
c'est la région. Mais nous avons des partenaires privés, des banques, je les citerai pas ici, mais banques qui croient en nous, et donc à la fois nous investissons indirectement, je le disais, dans des panneaux photovoltaïques, que ce soit sur les toitures des bâtiments publics ou des entreprises, dans le monde agricole aussi, on le sait peu, mais beaucoup de maraîchers ou de vignobles à forte valeur ajoutée nous ont demandé de mettre des panneaux photovoltaïques qui pivotent et qui donc à la fois protègent de la grêle lorsque qui bénéficient de l'ensoleillement quand on a besoin de soleil, qui permettent aussi de produire aujourd'hui, si vous voulez, pour que les gens aient une idée assez précise, la production en énergie renouvelable de la REC, c'est à peu près 150 000, c'est l'équivalent d'une consommation annuelle de 150 000 habitants par an, vous voyez. Donc
c'est énorme.
C'est un peu plus que la ville de Nîmes.
Donc on est
sur un bon train de développement, si je puis dire.
Donc finalement, avec une efficacité qui s'est installée rapidement.
Très rapidement. Quand moi j'ai pris la présidence de la REC, il y a maintenant de ça quelques années, on devait investir l'équivalent de 2-3 millions d'euros par an, ce qui est rien à l'échelle de cette région Occitanie. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 55 millions d'euros d'investissement, mais qui chaque année 1,2 milliard d'euros de travaux. Hein. Donc
c'est énorme.
On est passé à ce que moi je souhaitais. En fait, ce que la présidente de région souhaitait plus exactement, c'est-à-dire, en gros, il faut arrêter de faire de l'expérimentation. Maintenant, je souhaite que l'on vulgarise, que l'on passe à une énergie renouvelable, à une politique de transition écologique à l'échelle industrielle.
Voilà. Christian Saff, vous êtes en train de nous dire là que cette économie d'énergie, cette action pour le climat avec la REC, devient un moteur économique justement dans le secteur lié aux travaux, tous ces travaux d'isolation, pour isoler, pour mettre des photovoltaïques, pour mettre des éoliennes. Donc ça devient un moteur économique, plus de l'aspect vertueux sur la planète.
Je n'irai pas jusqu'à dire nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées. Nous n'avons pas de pétrole, c'est vrai, mais nous avons du soleil, nous avons du vent, nous avons la mer.
Oui.
Et ça, c'est une véritable richesse.
Bien sûr.
Ça peut paraître de temps à autre un inconvénient, mais c'est une véritable richesse. Vous avez raison. C'est-à-dire à la fois allier les conditions, justes conditions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi s'adapter. C'est aussi permettre aux plus démunis, d'y accéder et de bénéficier d'économies certaines. Et puis c'est aussi une véritable économie pour la région. Une chance, l'hydrogène, nous avons été une des premières régions, si ce n'est la région leader en France, à nous positionner sur un corridor, sur une production d'énergie pas très loin d'ici,
à Port-la-Nouvelle,
avec un stockage de cette énergie, notamment sur Béziers, avec des entreprises qui aujourd'hui se spécialisent. Donc on arrive non seulement à répondre à des objectifs environnementaux, mais à créer un véritable tissu industriel, une véritable économie.
Avec une compétence.
Et j'allais dire, difficilement délocalisable, puisque le soleil, le vent, c'est ici.
Et la mer aussi.
Et ça, on n'est pas prêt de nous l'enlever. Donc, je veux saluer l'esprit visionnaire de Carole Delga, qui a tout de suite senti que ça ne pourrait marcher que s'il y avait ce triptyque-là, à la fois que ça bénéficie socialement au plus grand nombre, que ça soit bien sûr un objectif environnemental, mais qu'il y ait aussi une économie autour de ça. Sinon,
c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, on fait, nous, trop souvent, des actions pédagogiques sur le climat, etc. Et quand on passe à dire, à la fin, on demande aux jeunes lycéens, alors, dans votre cas, vous allez changer quoi? Et tout d'un coup, il y a un petit blanc. Et ils se disent, ouais, au fait, en quoi, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Donc, je voulais vous parler de la pédagogie autour de ce que vous faites, là, cette pédagogie pour amener le plus grand nombre, dès le jeune âge, à comprendre l'intérêt, à comprendre ce que chacun peut faire. Est-ce qu'on n'a pas encore de la progression, là?
Toujours. Vous avez évoqué tout à l'heure des questions dramatiques, notamment sur le devoir de mémoire, oui, et les questions liées à l'antisémitisme, où on voit que dès le collège, ça commence à déraper. Donc, il y a, pour ces questions-là, pour les questions environnementales, il y a l'obligation, l'impérieuse nécessité de passer par les plus jeunes.
Ouais. C'est eux. C'est, les lycées c'est... qui sont de la compétence de la région,
exactement,
par exemple, ça peut être le creuset de cette
nous,
démarche.
Nous commençons, voilà, une partie des missions que nous demande la région, c'est par exemple de développer nos politiques environnementales, d'abord en direction des lycéens, pour que les lycéens, ouais, puissent voir concrètement.
C'est important.
Essentiel.
C'est très important.
Essentiel.
Alors, comment ça se passe? Vous avez des enseignants qui les sensibilisent? Vous faites des actions pédagogiques?
On a, bien sûr, on a un peu à la lumière de ce que les mairies font dans les écoles. On a des intervenants,
oui,
qui viennent dans les classes de lycée pour expliquer de l'importance du tri sélectif, de l'importance d'éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une classe, lorsqu'on sort d'une chambre, de l'importance de débrancher.
Des petits gestes du quotidien, finalement.
Mais qui sont quand même une question d'habitude.
Bien sûr.
Pas coûteux. C'est pas,
bien sûr.
C'est, voilà. Il me semble que, aussi vrai que lorsqu'on se lève le matin, pour la plupart d'entre nous, on se brosse les dents. Ben c'est un petit clic, des fois, permet de, comme ça, d'éteindre la lumière, de débrancher le chargeur du téléphone.
Pas laisser le couler pendant qu'on se brosse les dents.
Voilà, c'est des petits gestes du quotidien,
voilà,
qui permettent finalement, tout ça mis bout à bout, d'aller mieux. Mais, bon, on le sait quand même, la majeure, ouais, partie quand même de nos efforts sur l'échelle régionale, dans notre région, c'est les déplacements et c'est l'habitat. Une fois qu'on a réglé ça, on a réglé 90% de la pollution dans notre région.
De la dépense inutile.
Parce qu'on n'a pas une industrie qui est très polluante chez nous. Donc vraiment, si on arrive à régler les questions des mobilités et que ça soit la région, la métropole de Montpellier, on le voit avec notamment
le tram,
les transports, voilà. La question des déplacements quotidiens avec le développement de l'électrique, mais aussi des modes doux de déplacement. Et puis les questions de rénovation des bâtiments. Une fois qu'on aura rempli ça, on sera à 90% de nos objectifs.
Les deux pôles majeurs.
Majeurs. Mais la sensibilisation auprès des plus jeunes, vous avez raison, elle est essentielle.
Et donc, c'est un point important. J'ai vu que la métropole mettait en place aussi beaucoup de chargeurs pour les voitures électriques. C'est quelque chose qui se développe, à votre avis, suffisamment?
Oui, alors après il faut pour le coup à mon avis que l'État qui a mis en place les zones les ZFE, les zones à émission, on doit aider notamment
la
fragile entre nous,
oui,
quand il y a un changement de véhicule. J'ai vu que là bon, il y a des contraintes budgétaires qui font que l'État revient un peu sur les primes qui étaient données à l'époque. Bon, il faudra regarder ça, c'est vrai qu'on a une situation budgétaire qui est un peu compliquée, mais ça me paraît évident, mais il y a aussi des changements de comportement. Moi-même, je veux le dire, qui suis issu, né dans les années 70, donc ça veut dire un enfant des années 80, on va le dire comme ça. Eh bien, j'apprends à remarcher un peu plus, j'apprends à faire du vélo, j'apprends pour les petits déplacements.
De comportement quotidien.
Il faut le faire ça, mais c'est vrai que je pense que la vraie révolution, elle se situe aussi dans les modes de déplacement collectif, c'est-à-dire
bien sûr le tram, bien sûr.
Et honnêtement, la région et la métropole font beaucoup.
Beaucoup. Alors, Christian Assaf, un message pour nos auditrices, nos auditeurs. Votre objectif principal dans 2040, c'est loin, mais là déjà, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs?
Moi, je dis à nos auditeurs que le monde peut être anxiogène, il peut nous angoisser lorsque l'on le regarde à l'international. La situation nationale du pays peut être aussi anxiogène. y compris lorsque l'on regarde les pages des feuilles d'hiver de nos quotidiens locaux, on peut être inquiet. Et moi, je considère que il ne faut pas que les forces du mal l'emportent. Et pour ce faire, il faut avoir la force, je sais que c'est difficile, il faut avoir la force de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, se forcer chaque jour à vraiment mettre en avant les valeurs les plus positives.
Ce qui marche. Donc on ne baisse pas les bras.
Restez conscient et lucide. Moi, je ne faiblirai pas. Et les ennemis de la République sont mes ennemis. Je continuerai à les pourchasser et à les combattre pour les vaincre. Mais je veux que nos auditrices et nos auditeurs gardent espoir et positive un maximum. Car nous vivons quand même dans un beau pays, la 5e puissance mondiale avec de belles valeurs. Donc,
on les maintient, on les préserve.
Ils ne gagneront pas.
On les préserve. Je vous remercie, Christian Assaf. Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Montpellier, délégué au sport, conseiller municipal, conseiller régional, président du groupe socialiste citoyen d'Occitanie, le groupe majoritaire, président de la REC, on l'a vu avec votre engagement sur l'écologie et le climat. Et enfin, vous avez été député pendant de nombreuses années. Vous nous avez rapporté toute cette expérience pour animer le territoire. Je vous remercie, Christian Assaf.
C'est moi qui vous remercie.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-échange.
Radio Aviva vous fait découvrir les hommes, les innovations et les entreprises, facteurs du développement économique dans la région.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Aviva, le 88 FM radio-aviva.com pour nous retrouver sur notre site internet et donc bien sûr en DAB+. Aujourd'hui, face à moi au micro de Radio Aviva, Sébastien Lacaze, bonjour.
Bonjour Johan, bonjour
êtes,
à tous.
Bonjour, vous êtes le président de la French Tech. Merci à vous de venir passer un petit peu de temps donc, à notre micro pour présenter votre association donc French Tech Méditerranée, mais aussi votre parcours et ce que vous organisez donc, le 27 mai prochain au Moco donc, pour toute l'après-midi. C'est donc l'événement donc, Hello La Tech. Alors, bien sûr, avant qu'on rentre dans les détails de ce que c'est que la French Tech, etc., commençons par présenter rapidement. Voilà, qui êtes-vous donc, Sébastien Lacaze.
Moi, je suis d'abord, avant tout, entrepreneur dans une start-up qui fait des logiciels pour analyser sous-sol pour les énergies renouvelables. Voilà un petit peu mon parcours de géophysicien. Je suis ingénieur en géophysique. Et j'ai l'honneur d'être président de la French Tech Méditerranée depuis un peu moins d'un an. Voilà, le 26 juin 2024. Voilà, j'ai été élu.
Déjà, félicitations pour votre élection. Et donc, vous organisez le 27 mai prochain, donc, Hello La Tech, un événement, donc, de votre association French Tech Méditerranée. Qu'est-ce qui va se passer, donc, ce 27 mai prochain, donc, au Moco, à partir de 14h pile, pétante?
Bah, Hello La Tech, c'est l'événement annuel de la French Tech Méditerranée, de toutes les French Tech, où c'est un concentré, finalement, de toutes les innovations que nous proposons. Alors, ici, en Méditerranée, c'est bien sûr les régions, les départements du Gard et d'Hérault. Et puis surtout, c'est l'occasion de mettre en avant ce que c'est que l'innovation, ce que c'est qu'une start-up, une scale-up, ce que c'est que le monde de demain, puisque l'ensemble finalement des innovations adressent les grands enjeux, je dis souvent les grands enjeux du siècle, qu'ils soient d'ordre de l'intelligence artificielle, qui sera au centre bien sûr de cette Hello La Tech, mais également du numérique, des nouvelles énergies, de la santé et de la cybersécurité.
Qu'est-ce que ça représente donc à Montpellier, les start-up, les nouvelles entreprises donc d'innovation et de du numérique?
Déjà, il faut voir la French Tech Méditerranée. Alors, c'est pas qu'à Montpellier, mais c'est un peu plus de 250 start-up scale-up qui sont adhérentes, plus tous les groupes partenaires qui suivent cela. Alors on n'a pas toutes les données, mais on sait qu'au minimum c'est pas loin ou un peu plus de 3000 emplois, c'est ce qui est communiqué. Mais on pense que c'est beaucoup plus.
J'allais dire j'ai lu beaucoup plus.
Oui,
en tout cas,
c'est beaucoup plus, mais ce qui est publié par l'ensemble de l'écosystème, d'après le greffe du du tribunal, c'est un peu plus de 3000 emplois, mais on peut quasiment doubler, je pense. Et pareil, c'est quand même si on cumule l'ensemble du chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 300 millions, officiel, mais on imagine beaucoup plus. Donc, il y a un vrai écosystème, il y a une vraie économie autour de l'innovation, d'une façon générale, qui est souvent vécue comme quelque chose de risqué, mais aujourd'hui, dans notre région, on a un vrai, savoir-faire d'innovation pour faire que ces entreprises grandissent et surtout adressent les grands enjeux de demain.
Et justement, les grands enjeux et ces innovations, elles concernent quel milieu, quel thème?
Alors, il y a un peu tout. C'est l'innovation avec le grand I. Il y a évidemment une empreinte numérique forte, notamment à Montpellier. Bien sûr, tous les sujets, chapeau, la transverse et l'intelligence artificielle, les sujets du numérique, la cybersécurité qui touche tout le monde. Et puis après, des verticales comme la santé, qui est bien sûr très, très, très forte ici en région. On a également les énergies, qui est aussi l'industrie qui est plutôt du côté de Béziers. Mais il y a beaucoup de start-up industrielles. On vous le verrez dans Hello La Tech, de belles histoires, notamment dans l'hydrogène, à travers notamment Bulan Ecker. On a également, je le disais, la Sportech, qui est un peu l'innovation, la nouveauté. C'est une vraie filière Sportech de par finalement l'activité sportive de notre région et des technologies du sport qui sont développées, qui ont été incarnées notamment par Christophe Carniel.
Et donc, revenons à Hello La Tech. Qu'est-ce qui est globalement prévu donc pour cet après-midi de 14h à 19h, je rappelle, donc au Moco le 27 mai, donc au Moco à Montpellier?
Alors, ça va être très très riche en termes d'événements d'interlocuteurs. La première chose, c'est qu'il y aura déjà un village où l'écosystème va pouvoir se rencontrer. Il y aura des exposants, des startups qui vont exposer. Il y aura des rencontres, ce qu'on appelle B2B, et également des rencontres entre les grands groupes et les startups. L'idée, c'est de créer du lien dans le cadre du programme Je choisis la French Tech. Et également des pitchs, notamment des French Tech tremplins de toutes ces personnes qui ont des nouvelles idées. et qui vont pouvoir exposer leur sujet, potentiellement trouver des investisseurs. Voilà. Et puis, en termes de programme, ça va être un déroulé tout le long de l'après-midi à partir de 14h, à la fois ce qu'on appelle de scale-up, hein, notamment Adagio qui va nous exposer.
Donc scale-up, qu'est-ce que ça veut dire pour voilà, les...
C'est une start-up qui est en phase de croissance. C'est d'accord. Une start-up qui a passé des étapes, qui a voilà plus de 10 millions de chiffre d'affaires, enfin pour donner des grosses mailles, mais qui est en phase d'accélération. Mm. Le concept a été prouvé. On est à des niveaux où on dépasse une certaine taille, en général plus de 50 salariés. Et il faut croître de façon intelligente et de façon rapide.
Et c'est là donc que la Eloatech agit, c'est bien ça?
Alors Eloatech, elle va représenter tout cela. Alors elle va présenter une scale-up, elle va présenter également des start-up de la santé, notamment à travers l'intelligence artificielle. Elle va présenter des start-up, je disais, de l'énergie, ou plutôt des scale-up, start-up scale-up, de l'énergie notamment au travers de l'hydrogène, cette énergie décarbonée. Elle va bien sûr présenter toute l'intelligence artificielle, comment elle est utilisée, quelle est sa face cachée, quels sont les enjeux de l'IA et aussi du côté responsable que nous devons avoir, éthique, sur l'intelligence artificielle. Elle va présenter également la cybersécurité, qui est aussi une des forces de notre région, notamment avec Campus Cyber et tout un tas d'entreprises dans la cybersécurité. Elle va présenter une licorne, j'allais dire, Septéo.
Alors une licorne, c'est donc une entreprise française, pardon, qui est en plein développement.
Alors une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards. C'est la valorisation, encore une fois. Hein. Mm. Mais c'est une entreprise qui a dépassé un certain stade, qui est identifiée comme étant un potentiel énorme, qui fait, selon son niveau de l'hypercroissance, mais qui a dépassé un niveau de valorisation de plusieurs milliards.
Mais qui n'est pas obligatoirement française. Unicorn.
Alors, exactement, en anglais on appelle ça unicorn. Absolument, c'est pas un terme français.
Je pensais que c'était uniquement un terme qui concernait les entreprises françaises.
Non. Et ça vient presque des États-Unis, de San Francisco, où les premières unicorns, on les connaît tous, des GAFAM. Mais c'est quand on atteint un certain niveau de valorisation, sur des marchés grand public en général.
On va continuer cette discussion après une courte pause musicale. Merci à vous, Sébastien Lacaz, président donc de l'association French Tech Méditerranée. On va parler donc de la seconde partie d'émission, plus précisément de l'association en elle-même, de ses actions et aussi du milieu des start-up, donc du numérique et de l'innovation. À tout de suite. retour après cette courte pause musicale. Je suis toujours face à Sébastien Lacaze, donc pour Radio Aviva, le président de la French Tech Méditerranée, donc une association que donc Sébastien va nous présenter au micro. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes le président donc depuis un peu moins d'un an. Félicitations déjà pour votre élection. Donc la French Tech aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Sébastien Lacaze?
Oui, alors c'est la French Tech, c'est le réseau de l'innovation, des entreprises qui travaillent dans l'innovation et qui fédèrent tous les acteurs de l'innovation. Voilà. Donc en région, puisque la French Tech, elle est centrale, elle est pilotée par Paris. Et ensuite en région, il y a voilà différentes French Tech. Nous sommes la French Tech Méditerranée, on représente les départements du Gard et d'Hérault. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des startups en général, puisque c'est l'embryon d'un projet. Hein, on démarre avec quelques personnes, quelques milliers d'euros parfois, à la scale-up, qui permet de passer un stade où voilà on est en phase vraiment de maturation et de croissance.
Donc prenons l'exemple qui est le mien. J'ai même une vie donc d'entrepreneur et donc de créateur de start-up. Je viens vous voir avec donc mon projet et mes investissements. Qu'est-ce qui se passe? Que va faire donc la French Tech pour moi?
Ouais, merci Yoann pour cette question. C'est la vraie question. C'est à cela que nous servons. C'est-à-dire qu'on est le réseau. Alors on va pas piloter, on va pas ce qu'on appelle coacher. On va faire du mentorat, on va se rencontrer, on va permettre d'aiguiller et de mettre en relation. Et ensuite il y a des incubateurs autour de nous. Donc tous les incubateurs, ce sont des pépinières de l'innovation, hein, qui sont là avec des chargés de mission, qui sont là pour vous aider, à vous accompagner. On met en relation également avec les investisseurs, qu'ils soient publics comme la Banque Publique d'Investissement ou privés ou les banques, qui permettent de financer l'innovation. Quelque part aussi, ça va être des retours d'expérience, et c'est ça qui est très intéressant, d'arriver à confronter son idée avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu quelque part la même chose.
Globalement, est-ce qu'il est compliqué de mettre en place une start-up et donc de créer son propre projet?
Alors honnêtement, en France, on est dans un paradis de la start-up. J'ai lu récemment, il y a quelques jours, que Paris, bon alors c'est pas la France, c'est Paris, est élue la capitale européenne de la tech et quatrième au niveau mondial, juste après Boston, New York et San Francisco.
Donc, je vais réduire ma question. Donc, est-ce que à Montpellier, est-ce qu'il est facile de créer sa start-up?
C'est très facile de créer sa start-up. Il y a un environnement, et c'est la force qu'on a aujourd'hui, c'est que le réseau fonctionne, la French Tech étant bien sûr au centre, et tous les acteurs travaillent de concert pour vous aider déjà à valider votre idée, à la financer et quelque part à vous accompagner dans cette aventure.
Et donc il y a aussi un sujet d'actualité qui est très important pour les métiers du numérique et de l'innovation, ce sont les intelligences artificielles. Quelle place cela occupe aujourd'hui donc dans le milieu?
Alors l'IA, elle est au centre, c'est même plus un débat, c'est même plus ce que je disais.
Bien sûr.
Une verticale, c'est une transverse, elle irrigue toutes les verticales, toutes les filières, que ce soit santé, sport, énergie et autres. Elle est partout. Maintenant, l'enjeu pour nous de l'IA, c'est de la maîtriser, de comprendre quel type d'IA, de la rendre responsable, d'avoir des IA de ce qu'on appelle le plan plus frugal, hein, qui vont quelque part être un peu moins énergivores, qui vont aussi responsabiliser et puis voilà, qui vont être ciblés sur leur apprentissage. Mais l'IA, elle est centrale aujourd'hui, elle fait partie de nos sociétés. Il va s'agir de faire de demain une IA plus efficiente et encore plus responsable.
Justement, responsable, comment est-ce qu'on reste décent avec l'utilisation des intelligences artificielles? Est-ce qu'on ne tombe pas dans le trop plein d'utilisation? Est-ce que ça devient pas trop simple aujourd'hui grâce aux intelligences artificielles?
Absolument. Le numérique aujourd'hui est gratuit. Alors, on est tous exactement. C'est la même chose sur les réseaux sociaux.
Oui.
On a accès de façon gratuite à l'ensemble des médias, qu'ils soient streaming, de l'IA aujourd'hui. Mais ce numérique a un coût. Il a un coût carbone, il a un coût en termes de matière. Et aujourd'hui, et c'est un des axes principaux de la French Tech, hein, et d'ailleurs le sommet sur l'IA qui a eu lieu en France récemment a été très important, c'est de dire on est en train de quitter quelque part notre ère de dépendance au pétrole. Et on devient hyper dépendant à l'IA et à un numérique qui doit être maîtrisé. Donc on va passer dans une ère justement de mieux comprendre comment cette IA fonctionne et aussi de comprendre les enjeux de l'IA, parce que l'IA, elle a besoin de matière, elle a besoin de métaux.
Alors globalement, c'est bien ou c'est pas bien alors l'IA?
Ben, l'IA, elle est bien, elle nous aide, elle nous permet d'aller plus vite, elle nous permet d'aller plus rapidement à un vrai niveau de décision. Donc quelque part, elle nous facilite la tâche. Toutes ces pertes de temps qu'on a de faire des choses assez basiques, là-dessus, c'est vraiment une aide. Hein. Il faut la prendre comme une aide. C'est une évolution de nos sociétés. Elle va nous amener de plus en plus dans des métiers d'expertise. Il faut juste aujourd'hui bien comprendre derrière quels sont l'enjeu des data centers. Et donc, il y a tout, je tiens à le mentionner, à Montpellier notamment, l'IA, Montpellier Méditerranée, cette association qui est un cluster pour arriver à avoir une IA responsable en région. Mais c'est là tout l'enjeu finalement de nos IA.
On arrive à la fin de cette émission, à la fin de ce programme. Sébastien Lacaze, un dernier mot pour Hello La Tech, pour comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut vous contacter aussi, et comment est-ce qu'on peut surtout participer à Hello La Tech le 27 mai prochain.
Ouais, merci pour cette question essentielle. C'est gratuit, c'est ouvert à l'ensemble je veux dire des citoyens. Vous allez vous connecter Hello La Tech, frenchtech.hellolatech.com, vous trouverez le lien sur n'importe quel navigateur. C'est au MOCO, c'est bien sûr pour les partenaires, les membres. Il y aura bien sûr un moment de cocktail en fin de journée pour que tout cet écosystème puisse se réunir et partager. Mais c'est un événement ouvert et on a choisi le MOCO pour aussi le symbole de lien avec l'art, la culture qui complètement au centre de l'innovation, c'est d'être ouvert. Et quelque part, le fait de le faire au MOCO, pour nous, est un grand symbole.
Ça se passe donc à 14h.
Et le 27 mai, ouais.
Le 27 mai au MOCO de Montpellier. Merci à vous, Sébastien Lacaze, président de la French Tech Méditerranée, donc une association pour les startups du numérique et d'innovation. Merci à vous pour vos réponses. Cette émission est à présent terminée. Je vous propose de la réécouter au format podcast sur notre site internet radio-avizir.com. À très vite sur le programme.
L'écho en deux mots. Radio Aviva vous fait découvrir les hommes, les innovations et les entreprises, facteurs du développement économique dans la région.
Ce soir, je n'ai Dieu que pour toi.
réservez vos places pour une belle soirée festive le 17 juin au Jam à Montpellier. Tout en musique et en humour pour soutenir Radio Aviva. Participez à la tombola dotée de nombreux lots de prestige, dont deux billets d'avion aller-retour pour Palma. Au programme de la soirée, un concert de jazz par The International Jazz Quartet, composé de Eric Luther, David Cross, Eric Gilles et Arthur Fell. Le concert sera accompagné d'une démonstration de danse par une école de swing. Vous pourrez aussi assister à un stand-up de 5 artistes du Fridge Comedy Club, Amine, Aliénor, Gabriel Bourdon, Michael Condo et Julie Brimby. Les billets sont en pré-vente à 22€ et seront à 25€ sur place dans la limite des places disponibles. Alors inscrivez-vous vite à la Tombola et à cette superbe soirée sur la page Hello Asso de Radio Aviva.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh oh oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin.